Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo appelle les investisseurs à venir en RDC tout en respectant les lois du pays. Appel lancé à Cape Town en Afrique du Sud à la deuxième journée de la conférence minière internationale Indaba. À Ituri, le prix du carburant est passé ce mardi matin de 2400 à 3400 francs congolais à la pompe. Selon le président des importateurs du carburant, cette majoration fait suite à la nouvelle structure des prix élaborée par le ministère de l'économie nationale. Notre invité, c'est le commissaire urbain de la police nationale à Goma au Nord Kivu. Le colonel Job Alissa dresse le bilan partiel des manifestations organisées par la population hier dans cette ville. Madame, messieurs, bonsoir. Poursuite ce mardi en Afrique du Sud de la conférence minière internationale Indaba pour la deuxième journée consécutive. Cette journée a été marquée par les discours prononcés par les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et son homologue congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse, le président congolais a étalé le potentiel minier de son pays. Selon Félix Tshisekedi, les investisseurs peuvent venir en RDC, mais ils doivent respecter les lois du pays et surtout réaliser des projets de développement pour les populations impactées par les activités minières. Le compte-rendu de la journée avec vous, Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial à Cape Town.
C'est un panel présidentiel qui a ouvert les travaux de ce deuxième jour d'Indaba Mining. Le président sud-africain n'a pas caché d'afficher sa proximité avec son homologue congolais lorsqu'il est monté sur scène. Je suis heureux que mon frère et ami Félix soit enfin avec nous cette année, a souligné Cyril Ramaphosa. Ce dernier, parlant de son pays, a reconnu que le secteur minier était le poumon de l'économie sud-africaine avec des millions de jobs créés. Il s'est tout de même dit conscient des défis, c'est notamment combler le déficit énergétique. Quant à Félix Tshisekedi, il est revenu sur le potentiel minier de la RDC, mais seuls 19% des gisements congolais sont connus. Le chef de l'État invite ainsi les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires en RDC malgré l'insécurité, surtout dans la partie est du pays. Ce contexte sécuritaire instable peut freiner l'enthousiasme de certains, a tout de même reconnu le président Tshisekedi avant de rassurer qu'il ne ménagera aucun effort pour la restauration de la paix. Accompagné de la ministre des Mines, Félix Antoine Tshisekedi a visité le stand d'exposition du ministère des Mines ainsi que celui de la GKMine. Depuis Cape Town, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Et puis, la République démocratique du Congo, pays minier par excellence, ne profite pas encore de ses richesses à cause notamment d'une insécurité orchestrée savamment par des puissances obscures, cas du Rwanda déguisé en rébellion du M23. Déclaration faite à Cape Town aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi Tshilombo à la conférence minière internationale Indaba. Face à l'attrait que représente maintenant la RDC dans le domaine des mines, le chef de l'État congolais a assurer les investisseurs que tout sera mis en œuvre pour leur garantir la sécurité. Un extrait de ce propos recueilli par Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial.
Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour rétablir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière.
Retournons maintenant au pays par le Nord Kivu où la tension a baissé cet après-midi dans la ville de Goma. Toutes les barricades qui avaient été placées par les manifestants hier sur les principales artères ont été évacuées par la police nationale. Les marchés et les commerces informels ont timidement fonctionné aujourd'hui. Quelques banques et stations-services ont également ouvert. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouamenia.
La tension qui a prévalu dans la ville ce matin s'est décrispée cet après-midi. Les manifestants qui étaient perceptibles en grand nombre sur les différents carrefours de la ville ne sont plus visibles, sauf dans les quartiers périphériques de Majengo, Bouéné et Ndosho, où quelques badauds défiaient jusqu'en début de la soirée les forces de l'ordre. Dans les quartiers populaires et commerciaux Biréré, où nous avons effectué une ronde, les vendeuses de produits maraîchers ont repris normalement de leurs activités, mais les grands commerce reste toujours fermé. Non loin de là, au niveau du centre-ville, nous avons constaté un afflux de motards et de camionneurs en file indienne devant les quelques stations-service. Tous impatients se précipitaient à la pompe pour s'approvisionner en carburant. Et sur une banque dont nous taisons les noms, c'est une longue file visiblement des enseignants qu'on a vu retirer leur salaire dans un distributeur de billets. Les vendeurs à la sauvette communément appelés Kadhafi, ainsi que les quelques échangeurs de monnaie, étaient aussi visible sur leurs lieux habituels d'activité. Signalons que la police et les maires de Goma ont encore une fois appelé les manifestants à se retirer des théâtres de manifestations pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi d'infiltrer la ville. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la communauté humanitaire s'engage à soutenir la RDC en proie à une crise humanitaire. Propos tenus par la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence à l'issue d'un entretien hier ici à Kinshasa avec le ministre des Affaires Sociales Modeste Mutinga Mutwishai. Madame Joyce Nsuya est en mission d'évaluation et de redynamisation de son secteur. Je vous propose d'écouter un extrait de ce propos choisi par Pierrot Elamiji.
Le but de la visite d'aujourd'hui, c'était d'écouter de la part du ministre des Affaires humanitaires la situation humanitaire actuelle en RDC. Deuxièmement, c'était aussi de renforcer l'engagement de la communauté humanitaire et les bailleurs que nous continuons à soutenir la République démocratique du Congo. Troisièmement, nous avons aussi écouté auprès du ministre comment faire face à certains défis auxquels les acteurs humanitaires font face sur terrain en RDC. La conclusion est de faire passer le message afin que le monde sache ce qui se passe en RDC à propos de la situation humanitaire et de continuer à faire les plaidoyers pour qu'il y ait plus d'appui sur la crise humanitaire en RDC. Pour la population qui traverse cette crise humanitaire, qu'elle ne pense pas qu'elle est seule. Il y a des gens qui sont en train de compatir avec elle. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les Nations Unies avec un bailleur important qui est l'USAID, qui sont ensemble pour voir comment partager tant soit peu cette souffrance ensemble. Nous sommes aussi venus écouter ces personnes qui souffrent pour que nous puissions relayer leur message afin qu'ils soient entendus au-delà des frontières de la RDC.
On enchaîne avec le Maïndombe où les déplacés retournés dans certains villages du territoire de Kouamout vivent ces jours-ci dans des conditions extrêmement difficiles, notamment à Bissiala. Ils n'ont pas accès aux soins de santé primaires après le pillage de leur village lors des atrocités commises à Kouamout. Les centres de santé sont fermés actuellement. Des femmes enceintes accouchent à domicile et des enfants meurent faute de soins médicaux. À Bandundouville, la correspondance d'Irène Boma.
Nous sommes à Bissiala, village situé sur la RN17 dans le territoire de Kouamout au Maïndombe, l'une des entités touchées par les conflits interethniques dans ce territoire. D'après certains habitants ici, malgré le retour de la population dans ces villages après les atrocités, les centres de santé restent toujours non opérationnels. Sur place, il n'y a ni pharmacie ni corps médical. Ils disent être dans une situation critique et tirent la sonnette d'alarme. Les gens souffrent beaucoup, mais il n'y a pas de traitement. On doit aller à 24 km. Plusieurs femmes enceintes ont fait des fausses couches à domicile faute de soins de santé. Il n'y a pas un hôpital ici. Les agents de santé qui étaient ici sont partis. Tous les matériels de l'hôpital ont été pillés. Nous demandons un hôpital ici dans le village. Envoyez-nous les personnels soignants et les médicaments. Nous souffrons des éruptions cutanées, de la toux, des maux de tête, du paludisme. enfants, il y a des gens qui vomissent et qui font de la diarrhée. Les femmes enceintes souffrent. Notez qu'actuellement, il y a une centaine de déplacés qui sont déjà rentrés à Bisiala sur plus de 1000 habitants qui y résidaient, ont fait savoir ces habitants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Partons maintenant pour l'Ituri où le prix du carburant est passé ce mardi de 2400 à 3400 francs congolais à la pompe. Le président des importateurs des produits pétroliers affirme que cette majoration fait suite à la nouvelle structure des prix élaborée par le ministère de l'économie nationale. La coordination de la société civile locale plaide pour l'implication personnelle du président Félix Tshisekedi afin de revoir cette mesure pour l'Ituri qui est une province sinistrée à cause de l'insécurité. Radio Okapi Bounia, Isaac Remoyope.
Les prix des carburants est majoré de 1000 francs congolais les litres dans les stations-service à Bounia. Conséquence, les prix des transports à commun revient à la hausse. La population redoute également la majoration des prix des marchandises sur les marchés. Pour les consommateurs, cette augmentation est excessive dans ces contextes d'insécurité où le pouvoir d'achat de la population est très faible. Les présidents des importateurs des produits pétroliers attribuent cette majoration à la nouvelle structure des prix du ministère de l'économie qui fixe les litres des carburants à 3400 francs congolais. Daniel Mou-
Nous avons le nouvel secteur de prix qui varie entre 3450 et 3400.
La société civile de l'Ituri déplore cette mesure qui, selon elle, vient accentuer la souffrance de la population déjà paupérisée par la guerre qui dure depuis 5 ans. Son coordonnateur demande l'implication personnelle du chef de l'État pour le cas de l'Ituri, qui est une entité sinistrée. Dieudonné Lossa.
Nous avons demandé maintes fois à ce que le gouvernement puisse alléger la souffrance de la population. Et le président de la République, à qui nous avons toujours adressé cette demande, alors nous demandons à ce que l'État puisse racheter ces prix-là qu'il faut ajouter sur les carburants afin de permettre à la population de consommer les carburants au prix qu'elle avait hier. Parce que ça sera vraiment faire souffrir davantage la population de l'État.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Économie encore. Le prix du sac de ciment dans la ville de Mbujimayi est passé de $30 à $35 américains. Le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC fait remarquer que cette hausse est liée notamment à l'enclavement du Kasaï oriental. Il l'est dit à Esther Ndalafina.
Tant que nous serons dans cette position d'enclavement, avec l'état de nos routes, je crois que nous reviendrons plusieurs fois pour faire des propositions de ce que nous devons par rapport à cette situation au Kasaï oriental. Lorsque le produit devient rare, la loi de l'offre et la demande étant, c'est tout à fait normal que le prix sur le marché subisse ces oscillations. Parce que à l'achat, le produit n'a pas connu de modification. Ce n'est qu'à la vente où il se pose un problème parce que sur le marché, il n'y en a pas. Parce qu'on ne s'est pas approvisionné à temps ni par la SNCC ni par la voie routière. Les opérateurs économiques ne savent pas comment ils peuvent ramener dans 2 jours, 3 jours un ciment provenant par exemple de Kimpese ou de GCK de Likasi. Donc c'est un problème et quand vous l'avez même ce ciment, il faille que vous dépensiez beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour l'acheminer ici au Kasaï. Vous payez l'argent aujourd'hui, vous attendez plus d'une année, 6 mois, 7 mois, pour qu'on vous attribue un conteneur. Et quand vous l'avez mis dans le conteneur, il doit également faire autant de mois pour qu'il arrive à destination.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Cette jeune dame recrue qui se sont livrées à des actes indignes comme l'ivresse en public, la divagation et les grossesses indésirables sont renvoyées des FARDC. Elles avaient été recrutées pour suivre une formation militaire à la base de Kitona au Congo central. Ainsi en a décidé l'autorité de la base militaire et du centre d'instruction de Kitona en vue de débarrasser les FARDC des brebis galeuses qui ternissent leur image. Des précisions avec le chef des divisions du service des communications de la base militaire de Kitona, le major Willy Mabambaka affirme que ces dames ont quitté Kitona pour regagner leur famille. À Matadi, la correspondance de Nana Plurichmambou.
Ces 7 jeunes dames renvoyées pour avoir violé les règlements militaires font partie des recrues parties en formation au centre d'instruction de Kitona que le chef de l'État a visité au mois de décembre dernier. Après moins de 3 mois de formation militaire, ces femmes se sont illustrées par un comportement irresponsable. Le major Willy Mabambaka, chef de division du service de communication et de l'information des forces armées de Kitona, explique.
Une personne qui était venue en formation, on l'a enceinte, on ne sait pas par qui. Certains d'autres, c'est l'ivresse biblique, la divagation, des femmes qui prennent la drogue, qui prennent les bombes. On ne pouvait pas les garder. La première des choses apprises, c'est le règlement militaire.
Selon le major Willy Maba, le commandant du centre d'instruction, en accord avec le commandant de la base militaire de Kitona, a jugé utile de les renvoyer de la formation dans le but de montrer à d'autres recrues que la discipline est la mère des armées. C'est aussi pour rappeler que l'armée n'accepte pas n'importe qui dans ses rangs et qu'en cette période où le pays est confronté à plusieurs défis sécuritaires, l'indiscipline ne peut être tolérée, ajoute-t-il. Les 7 jeunes dames ont été dépouillées de tout effet militaire avant d'être embarquées dans un véhicule à destination de Kinshasa et Goma où elles ont été recrutées. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé ce matin au Mali, à Bamako, pour des entretiens avec les dirigeants de la junte au pouvoir qui souhaitent obtenir l'aide de Moscou dans la lutte contre une insurrection islamiste qui, du reste, bien ancrée malgré les années de combat. La course contre les temps et le froid se poursuit inlassablement ce mardi au lendemain des violents séismes qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, où les bilans ne cessent de grimper, dépassant ainsi 5000 morts et où l'aide internationale est très attendue. C'est pour assister des milliers de sinistrés qui manquent de tout.
L'invité.
Notre invité, c'est le commissaire urbain de la police nationale dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Le colonel Job Alissa dresse le bilan partiel des manifestations organisées hier par la population au chef-lieu du Nord Kivu. Il s'entretient avec Gabriel Ouamegna.
Colonel Alissa Job, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire urbain de la ville de Goma. Quelle est la situation ce matin après des événements malheureux?
La situation reste complexe, mais ce qui est vrai que nous rétablissons l'ordre public comme d'habitude. C'est ça notre charge. Vous venez de vivre comment on rétablit l'ordre au niveau de l'Instigo, les cœurs d'air de la ville. Ce que nous regrettons, puisque une ville morte ne pouvait pas se transformer à des pillages, à des vols, à des blessures, hein, blessures de destruction méchante. C'est ce que nous déplorons.
Comme vous parlez déjà des pillages, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan, ne fût-ce que provisoire, pour les événements, puisque vous confirmez que la situation reste toujours tendue?
Hier, on a dévalisé certaines boutiques, certains shops, mais c'est que vrai que quand même on a réussi d'interpeller certains voleurs parmi ces auteurs, et nous croyons les transmettre à la justice. Et à travers ça, d'ailleurs, c'est que j'appelle à la justice de bien jouer un bon travail, que tous ces organisateurs soient interpellés, puisqu'ils sont identifiés, ils sont connus. Donc, il y a facilité de les inviter et qu'ils répondent quand même à leurs responsabilités, puisque c'est eux qui connaissent comment ils ont géré la manifestation, qui se transforme à tous ces dégâts que vous voyez.
Puisqu'on parle des cas de pillage, des cas de casse, quels sont les quartiers de la ville qui ont été les plus affectés, commissaire?
Oui, les quartiers chauds comme d'habitude, Majengo. Il y a aussi les ronds-points signaires où on a vraiment dévalisé certaines boutiques au niveau des églises détruites. Et voilà. Alors, comme je l'ai dit, seuls les organisateurs doivent répondre par rapport à ça.
On parle aussi des cas de décès de certaines personnes. Est-ce que vous confirmez cette information, commissaire?
Nous sommes encore sur le terrain. Nous récoltons d'abord toutes les données possibles. Et il est encore tôt de donner un bilan ou de confirmer tel ou tel événement. Nous suivons. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de rétablir l'ordre public maintenant.
Comme il en est ainsi, commissaire, qui sont les responsables de ces manifestations qui ont rendu les visages de Goma comme un chat de bataille?
Ils sont tellement connus, nommément, même si vous voyez leurs écrits, ils sont identifiables, et même ils s'identifient. Il y a Jimmy Zéali qui est à la tête, il y a Wanapua à la tête, il y a Lumumba Mwisa à la tête, il y a Ricky Paluku. D'ailleurs, j'ai toujours souligné que ce sont des gens qui font les sang, les morts toujours à Goma. Et en tout cas, je crois que la justice, pour cette fois-ci, doit prendre ces gens en charge.
comment vos services ont pu travailler pour éviter toute infiltration dans ces manifestations qui ont embrasé presque toute la
ville. Nous avons la charge de la sécurité de cette ville. Nos stratégies, ça reste vraiment top secret. Ce n'est pas aux médias de donner nos stratégies de comment nous avons sécurisé la ville pour éviter toute infiltration. Nous avons eu des détails techniques et tout est défini par la haute hiérarchie.
Et quelle est l'assurance que vous donnez à la population de Goma ce mardi matin?
Nous rassurons que les services de l'ordre sont sur le terrain. Vous voyez déjà, il y a, par rapport à hier, il y a quand même des taxis moto qui font un peu de tour pour dire que nous sommes là et nous devons être forts. Sauf que je demande à la population de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Puisque c'est que l'ennemi attendait et qu'on fasse des échanges avec notre population, qu'il en profite. Heureusement, comme je l'ai dit, nous avons des tactiques. Nous sommes réservés, nous sommes concentrés surtout sur la surveillance de la sécurité de la ville pour qu'il n'y ait pas de surprise.
Les organisateurs de ces manifestations les ont étalées pendant une semaine. Comment vous allez vous comporter, monsieur le commissaire?
Nous ne connaissons pas ça. Parce que d'abord, eux-mêmes commencent à se contredire ce terrain. Et c'est pour cela qu'il faut qu'ils soient interpellés, que chacun parle de sa responsabilité, sa part de responsabilité par rapport à soi-disant appel ville morte. La ville morte ne pouvait pas se transformer à une poubelle et à des pillages. Alors nous estimons que ces gens sont utilisés par l'ennemi. Ils ne sont pas patriotes. C'est léger de l'ennemi. Ce sont des marionnettes de l'ennemi. Et ils doivent répondre pour ça.
Colonel Ali Sadiobe, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le commissaire urbain de la police nationale dans la ville de Goma, le colonel Job Alissa, était interviewé par Gabriel Ouamenia. Et c'est la fin de cette édition en information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Belle Équipe Elamondo qui m'a accompagné.